C'est toujours le mag sur Maximum jusque midi. Comme promis, on entame notre séquence hebdomadaire intitulée « C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça ». Christian Quino et Guyvan de Nourguet nous présentent chaque semaine des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Merci Élise, je suis très heureux de vous retrouver chaque dimanche vers 10h30 avec mon ami Guyvan de Nourguet. Bonjour Guy.
Bonjour Christian.
Guy, journaliste indépendant du Transcendance, l'émir de l'économie, notre témoignage sur la culture générale, c'est un homme exceptionnel, je suis très heureux de t'avoir avec moi. On en est déjà à la 54e, 55e capsule, les choses passent, mais comme vous le savez, si vous tombez peut-être sur notre séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Nous sommes sur du positivisme en Wallonie, et pas spécialement en Wallonie, parce que on va gratter un peu plus loin, à partir du moment, évidemment, c'est générateur d'emplois, de bonnes choses, de bons chiffres, de bons projets, de bons scoops, nous sommes évidemment toujours preneurs. Alors, avant d'aborder les différents chiffres de mon ami Guyvan Lauriette, on a deux invités avec nous aujourd'hui, sur le secteur commun de la gastronomie. Vous le savez très bien, c'est un sujet que j'aime beaucoup, évidemment. J'ai sur ma gauche M. Yann Van Acter, bonjour.
Bonjour.
Alors, M. Van Acter nous vient, lui, de Wespelaar, si je prononce bien, c'est du côté de Louvain, plus ou moins 90 km de Liège. Voilà, c'est une société Made in Belgium, je ne sais pas si on a le jiggle, on pourrait le mettre. C'est une société, en fait, qui est spécialisée dans la fabrication de poêles et de casseroles de haut niveau, quand même, on peut en parler.
Oui, surtout, on est spécialisé dans la fabrication des casseroles en cuivre.
Parfait. Sur ma droite, Sherazade. Alors, c'est un personnage connu et reconnu, et pas spécialement encore en Belgique d'ailleurs. Sherazade, bonjour.
Bonjour.
C'est une histoire, l'or noir de la gastronomie. C'est un homme un peu qui jongle avec ça depuis de nombreuses années. On va parler de caviar. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a du caviar en Belgique, ça c'est une chose, on en produit quand même quelques tonnes, on en parlera tout à l'heure. Mon cher Guy Van Lauriette, on a quelques bons chiffres annoncés aujourd'hui.
Oui, on a quelques chiffres. Alors, le premier chiffre, c'est 131 milliards de dollars. Alors, vous voyez ce que c'est, mon ami Christian?
Non,
vous ne voyez pas.
Vous m'avez connu.
C'est la fortune de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, qui est donc, le magazine Forbes fait son classement annuel, et c'est Jeff Bezos qui arrive en tête, qui est devant deux habitués, Bill Gates, qui lui a 96,5 milliards, et notre ami Warren Buffett, l'investisseur d'Omaha, qui lui a 82,5 milliards.
Et en Belgique,
trio de tête. Bah alors en Belgique, il faut quand même... on en a trois. Alors on a Eric Witouk. Alors on ne le connaît pas bien, Eric Witouk, mais c'est quelqu'un dont la famille, à la base de la fortune, c'est la vente, il y a des années de ça, de la raffinerie Tirlemontoise. Et d'accord. C'était un des actionnaires. Et aujourd'hui, mais lui a réinvesti. Il a investi notamment dans Weight Watcher, c'est lui qui est propriétaire de Weight Watcher.
Oui, effectivement. Enfin,
bon,
nous concerner d'ailleurs.
Oui, plus les gens perdent du poids, plus sa fortune grossit, peut dire ça comme ça.
Non, avec nous, ils ont fond de commerce.
Oui, et alors Blue Buffalo qui sont des aliments pour animaux. Mais lui, sa fortune est à 7,6 milliards de dollars. Puis on a Patok Chodiev qui vient du Kazakhstan, mais qui est belge aussi. Lui, il est actif dans tout ce qui est les ressources naturelles. Lui, il est à 2,1 milliards de dollars. Et puis on a Luc Tack, qui est un investisseur, un homme d'affaires flamand, qui est dans Picanol et Tessenderlo Group. Donc ça, c'est le trio de tête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le trio de tête belge, le trio de tête au niveau mondial, donc ils sont 80 milliards. Mais ici, nos amis belges sont classés beaucoup plus loin, puisqu'ils sont classés aux alentours de la 1000e place. Donc ça montre...
Oui, enfin bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Et c'est les Américains qui sont dans les top 20, il y a 14 Américains.
D'accord. Donc. Un petit sujet que j'ai pour vous.
Oui,
Il fait 15 jours qu'on en parle, on n'arrive jamais à aborder le sujet. Bon, vous êtes au courant, les moines se rebiffent.
Oui.
Alors c'est une drôle d'histoire.
Notre ami trappiste.
Donc assécher le marché noir de la bière. Moi j'ai déjà bien le titre, votre avis là-dessus?
Oui, mais je vois de quoi il s'agit. Non, c'est... Mais
en fait, oui, c'est l'histoire, donc...
Des moines de Westvleteren.
Voilà, c'est abusé par une chaîne de supermarchés néerlandaise. En fait, les moines de Westvleteren veulent modifier leur politique de commande. Bon, apparemment, l'étude de marché n'a pas été relativement bien faite, puisqu'en fait, quelque part, leur prix de vente a été multiplié, enfin, peut-être à 1 euro, 2 euros, ça a été multiplié par 3, par 4, par 5, d'autant plus que maintenant, j'aimerais bien récupérer, évidemment, cette différence sur la marche. Vous pensez que c'est possible, ça?
Mais oui, mais le problème qu'ils ont, c'est, à Westvleteren, c'est qu'ils ont une petite production. Ils sont à quelques milliers d'hectolitres, ce qui est très peu par rapport aux trappistes comme Chimay ou Westmalle, qui sont à plus de 100 000 hectolitres. Et le problème, c'est que c'est rare, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelques années, les Américains, un classement a dit que la Westvleteren était la meilleure bière du monde. Donc il y a eu un engouement sur cette bière. Et on a un petit parallèle, mais ça se joue aussi, sur Cantillon, par exemple, à Bruxelles, qui a aussi une petite production. Et quand vous allez à la brasserie même, vous payez la bouteille de gueuse, vous la payez 5, 6, 7, 8 euros, donc pas très cher. Vous allez aux États-Unis, déjà là, le prix est multiplié par 5 ou 10. Mais alors que sur les sites internet, certaines cuvées spéciales, vous avez des prix qui montent à plusieurs centaines d'euros. Donc il y a une spéculation aussi autour de la bière.
Évidemment, évidemment. Mais il y a un commerce, hein, il y a un fameux commerce, ouais. Évidemment, tout en sorte que il y a encore des bières qui ne sont pas protégées non plus quelque part, aussi au niveau de leur appellation.
Si, si. La gueuse, non. Enfin, en partie, si, quand même, mais on peut pas l'appeler comme ça, gueuse. Mais pour les trappistes, non, non, les trappistes, c'est protégé. Et si quelqu'un veut faire une trappiste dans son jardin, il aura tout de suite l'association des trappistes qui lui tombe dessus, et même aux États-Unis. Parce que les grands frères de Westbletteren, que sont Westmalle et Chimay, ont des moyens financiers assez considérables.
Hein. Une information qui peut peut-être vous intéresser avant d'arriver à la première pause musicale, et on donnera la parole à M. Jan Van Acter. Un prix unique, enfin partout, ça va concerner les livres en fait, depuis le 5 avril dernier. Le prix unique du livre est devenu une réalité partout en Belgique. Donc en Patrick, donc, le prix est celui fixé par l'éditeur et se retrouve donc au dos du livre. Ça, je pense que c'est quand même pas plus mal que d'acheter un bouquin d'un magasin à l'autre, avoir des variantes, ça n'était pas très pratique, c'était pas très logique.
Non, mais on a quand même encore les variantes de la tabelle. Hein.
Voilà, tout à fait. Et ça, ça fera encore pour quelques temps. Ça va encore tenir quelques temps.
Bien,
première pause musicale, on donne la parole à Jan Van Acter et à Sherazade pour le caviar. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Deuxième séquence. Jan Van Acter, troisième génération, Fal Culinaire, région Westpelard. C'est une histoire familiale, ça c'est quand même relativement important. Donc ça veut dire que le grand-père s'est lancé dans cette production Made in Belgium. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu une opportunité ? Quelle est la raison en fait ?
En fait, il y a mon grand-père qui a racheté une petite société à Anderlecht qui s'appelait Nader dans les années 58. Et il faisait plutôt le nickelage et il y avait une toute petite collection de casseroles en cuivre. Donc au départ, il a racheté et il a délocalisé. Donc il s'est basé à Westpelard qui est à Acht, qui est entre Malines et Louvain. Et donc au début, il faisait des cafetières nickelées, mais au moment que c'est devenu en plastique, il s'est focalisé sur les casseroles en cuivre. À ce moment, c'était à la mode d'avoir quelques petites casseroles bien fines, légères, qui étaient accrochées dans chaque cuisine. Et donc, tout petit à petit, il a commencé là-dessus pour élargir la gamme.
D'accord, justement, ça a été pour vous un départ qui est peut-être devenu aussi une contre-publicité, puisqu'en fait, vous vous êtes dirigé vers le haut de gamme, donc ça n'avait plus rien à voir avec la belle petite casserole qu'on a accrochée sur le mur de la cuisine, parce que quand même savoir qu'une poêle, je ne sais pas si tu le sais, mon ami Guy, mais une poêle, ça tourne à quoi ? 2,5 kg, 2,7 kg ?
Ouais, une petite, comme la petite sauteuse que j'ai apportée ici, c'est moins qu'un kilo, mais si on parle d'une sauteuse normale, on parle vite de 1,5 kg, 2 kg, oui.
Donc, trois générations que ça dure, ça c'est bien. Le marché d'exportation me semble une priorité chez vous, et pourquoi ?
Oui, tout à fait. Donc, l'exportation, parce que certainement, on a changé la stratégie, parce que c'est surtout grâce à l'arrivée de mon père que la qualité a été augmentée, parce qu'il y, en tant qu'amateur chef, il a ciblé le professionnel au lieu de cet aspect décoratif. Et donc, c'est en augmentant l'épaisseur du cuivre d'augmenter la qualité. Donc, justement, une casserole de cuivre qui est lourde, ça veut dire que c'est une casserole de qualité, parce que si elle est légère, elle n'a que cet aspect décoratif. Et l'aspect d'exportation, c'est devenu important parce que le marché belge est un petit marché de toute façon, mais on a ressenti un intérêt très 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 important des États-Unis, de l'Angleterre, et ce sont ces marchés-là qui nous permettent en fait de continuer à fabriquer ce produit-là.
D'accord. Donc en fait, la production pour la Belgique, pour votre petite usine, on en parlera du nombre de collaborateurs, ça se résume à 15 jours, 3 semaines en fait sur une
Oui, année. Plus ou moins. Allez, c'est pas évident pour le dire en nombre de jours ou en nombre de semaines, mais on fait 95% de l'exportation sur le chiffre d'affaires annuel. Donc ce qu'on fait pour la Belgique, ce sont encore de temps en temps des étamages, des restaurateurs qui ont des vieilles casseroles, une batterie qui traîne déjà depuis des années et qu'ils aiment bien, qu'ils sont vraiment accrochés. Et on c'est un service à part, mais pour la production telle qu'elle, on est en collaboration avec les cuisinières Lacanche, donc ça aide un peu, mais ça reste un chiffre très 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 petit.
Alors moi je peux vous dire qu'on a un exemplaire sur notre bureau ici, et je peux vous assurer que c'est du castard, durée de vie d'un article comme le vôtre, c'est quoi ? La durée de vie, je veux dire.
La durée de vie, bah, c'est une pièce d'héritage. Donc, en fait, on fait. Notre stratégie est un complètement différente par rapport à d'autres fabricants de masse. Donc, pour nous, on fabrique quelque chose une fois, on le fait bien et que ça ne retourne plus jamais.
D'accord, l'obsolescence programmée n'est pas l'ordre du jour chez FAC, ça c'est sûr. Mon cher Guy Van Allorguette, une réflexion.
Oui, c'est destiné exclusivement aux professionnels.
Non, pas du tout. Non, c'est destiné aux gens qui aiment bien cuisiner.
Ah oui, ok.
Donc c'est souvent confondu dans le sens que quelqu'un qui n'est pas professionnel, il n'ose pas utiliser parce que ça a l'air trop chic, ça coûte peut-être trop cher, donc il n'ose pas. Et ça, ça fait partie de la stratégie de la communication pour convaincre que tout le monde qui est passionné de la cuisine, qui devrait au moins essayer de cuisiner avec le cuivre, parce que dans notre esprit, une fois qu'on cuisine avec le cuivre, on ne veut plus jamais rien d'autre.
Oui, c'est ça, ça a quand même des qualités particulières. Pour la cuisson, pour la cuisine, hein, le cuivre.
Tout à fait, mais c'est pas uniquement la cuisson. Donc, il y a des avantages qui sont beaucoup plus larges que ça. En fait, je peux rentrer dans les détails, mais ce qui est le plus important, c'est le cuivre, ça vous donne le contrôle. D'accord. Parce que vous pouvez maîtriser la température, ce qui vous permet de faire des choses beaucoup plus compliquées, c'est d'une manière plus simple.
Le nombre de collaborateurs de votre entreprise, c'est grosso modo ?
On n'est pas nombreux. Donc, avec mon père et moi, qui fait la gestion, la direction, j'ai quatre artisans.
Ça, c'est exceptionnel, ça. Je trouve trois générations, quatre personnes, cinq personnes. On arrive à avoir un produit haut de gamme à exporter à plus de 90%. Alors là, félicitations. Les points de vente Falk, en fait, on peut les retrouver au haut.
Comme dit, on fait la majorité en exportation. La pointe de vente principale, c'est à notre atelier. Et à côté de ça, il y a toujours quelques magasins, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, un peu moins sur Bruxelles, où il y a des revendeurs, des amateurs de cuisine qui sélectionnent des produits de qualité. Et ça a changé un peu il y a des années que le revendeur était vraiment le sélectionneur des marques ou des produits. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt les grandes marques.
Bien. Est-ce que Falk a toujours une recherche au niveau de la technologie où on est vraiment bien cadré dans un mariage des matériaux ou bien vous recherchez, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux produits possibles ?
On est toujours à la recherche parce qu'on ne peut pas s'arrêter avec ce qu'on a. Donc le marché change, ce n'est pas au niveau des goûts, des trends, mais c'est aussi au niveau de la technologie. Donc il y a l'induction qui est rentrée, qui est devenue populaire à partir des années 2000, on dirait. Et c'est là qu'on a fait beaucoup d'études et beaucoup de recherches pour avoir quelque chose de plus moderne. Et on a sorti l'année passée une nouvelle série qui est de cuivre cœur. Donc on a une couche en inox ferritique à l'extérieur pour justement faire fonctionner sur l'induction.
Parfait pour les informations. Le site internet de Falk est
www.falkculinaire.com.
Bien soutenir nos entreprises, du Made in Belgium à 100%. On se retrouve pour la troisième séquence et puis on va parler caviar. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Troisième séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, le positivisme. Avec nous, cher Azad, sur ma droite, caviar. Il y a du caviar en Belgique, je vous l'assure, et pas un peu, l'or noir de la gastronomie. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe, vous, le marché du caviar ? Bon, c'est sûr, on a terminé les fêtes de fin d'année. Alors que ça, c'est bien. À mon avis, un chiffre qui a été en croissance. Du caviar en Belgique, il y en a quand même quelques tonnes qui circulent. On parle entre 3 et 4 tonnes, c'est quand même pas rien. Donc le marché aussi d'exportation est très important. Concernant Sherazade, il y a du caviar, mais il n'y a pas que du caviar, en fait.
En fait, nous faisons du caviar principalement, mais nous avons remarqué que il fallait avoir une philosophie qui s'étend à d'autres produits comme les saumons aux arômes différents, les king crabs. Il y a toute une série de produits qu'il faudrait, on pourrait nommer ici.
D'accord.
Il n'y a pas de problème, ils peuvent me contacter.
Quand on parle de caviar, il y a toujours un nom qui revient, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, c'est Beluga. Quand on parle de ça, souvent les yeux pétillent. Il est clair qu'on parle de chiffres quand même relativement importants au gramme, parce que soyons clairs, on parle prix au gramme. Mais évidemment, si on va gratter un petit peu plus loin, apparemment pour le Beluga, c'est des périodes d'attente de 15, 16, 17, 18 ans.
Oui, avant d'atteindre le moment où il va pouvoir produire le caviar.
D'accord.
Donc, il faut attendre ce laps de temps énorme.
Donc c'est un gros investissement.
C'est un gros investissement.
J'avais une question à poser, c'est de l'info, c'est de l'intox. Il paraît qu'il y a de l'échographie au niveau du caviar, c'est vrai?
Oh, ça, vous savez, c'est pas ce qu'il se dit.
C'est pas
un fantasme, mais ça se fait, oui, ça se fait.
Bien, alors, mis à part vous, votre production, donc elle se rapporte spécialement sur le marché belge ou bien vous exportez?
Non, nous exportons également, mais il a fallu d'abord, comme c'est un nouveau nom, moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier, mais il a fallu que j'aille vers un nouveau nom parce que je voulais atteindre une autre dimension avec le caviar, un caviar de grande qualité, un caviar qui est sélectionné exclusivement pour chacun de nos clients et ce que les autres font, bien sûr, mais pas de la même façon parce que quand nous travaillons sur des stocks de nos confrères, donc on a les meilleurs caviars qui sont chez eux, donc on fait une sélection pour chacun de nos clients. C'est comme ça qu'on arrive à avoir maintenant tout doucement un nom qui a une belle réunion.
Alors justement, on tend une perche, on parle de nom, on parle de caviar. Caviar, ce n'est pas protégé quelque part. On pourrait produire du caviar n'importe où.
Écoutez,
dans le monde.
C'est assez étonnant parce que moi, quand j'ai commencé le caviar dans les années, fin des années 80, on parlait caviar, ce caviar que l'on voit depuis la nuit des temps sur les assiettes. Mais je vois qu'on commence à parler de caviar d'aubergine. Ça m'a étonné. Caviar rouge, qui sont les œufs de saumon ou les œufs de truite, le caviar d'escargot.
D'accord.
Ça, ce sont des appellations. Le terme caviar, maintenant, est répandu. C'est bien dommage, mais bon, on ne peut rien faire contre ça, sauf si la corporation, mais il n'y en a pas.
Et une réflexion sur le caviar, mon cher Guy?
Oui, c'était pour savoir, dans les clients, dans la clientèle, la plus grande partie, c'est la restauration. Oui, aussi les particuliers qui...
Vous seriez étonné combien de particuliers achètent. De toute façon, la restauration est là.
Oui.
Grâce à elle, elle nous fait connaître sur le marché. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez énormément de chasseurs privés qui cherchent à se procurer du caviar, peut-être à de meilleures conditions. Mais en Belgique, ce sont des très gros consommateurs.
Le prix du caviar en moyenne au gramme, c'est pour avoir un caviar de bonne qualité, il faut tourner sur un...
Si vous parlez on parlait du beluga, on est à 3700 à 4000 euros du kilo, prix public.
D'accord.
Prix public.
D'accord. Et là, ici, rien que sur la Belgique, je me trompe dans mes chiffres, 3-4 tonnes par an, c'est quand même déjà énorme.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
Premier producteur de caviar, mon cher Guy, vous qui êtes au courant de tout, vous le savez.
Oui, j'ai appris ça, j'ai été surpris à l'époque, c'est la Chine.
Vous m'auriez étonné. Avec combien? Je vous pose une colle.
Alors ça, je ne sais pas, ça par
contre. Ah, voilà. Bon, au frit, c'est 80 tonnes.
Ah oui.
C'est quand même déjà pas mal. Alors, je ne sais pas, une question justement d'expérience. La Russie est aussi aux avant-postes?
Non, la Russie n'a pas obtenu son homologation pour vendre le caviar, en tout cas en Europe.
Et pourquoi?
Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la qualité qui est exigée par... chez nous, c'est l'APSCA, donc par le CITES.
D'accord.
Je pense qu'ils n'ont pas l'air de vouloir... se presser dans ce domaine-là.
D'accord.
Ils ont un gros marché chez eux.
J'ai entendu dire, et vous devez savoir, on parle de caviar hybride. C'est un mot qu'on retrouve souvent. C'est quoi ça?
Alors je vous explique. Le caviar hybride, en fait, on a commencé avec un caviar, dans le caviar de comme l'on fait aujourd'hui, je n'ai pas le terme, excusez-moi, d'élevage, le caviar d'élevage. Dans le caviar d'élevage, il a fallu commencer avec un caviar qui vient d'eau douce, parce que maintenant, les caviars viennent tous d'eau douce. Et on a pris un esturgeon qui est le Bayri, et du Bayri on a commencé à faire des croisements avec d'autres esturgeons, parce que vous savez que l'esturgeon Ossietre vient de la mer Caspienne, comme le beluga également, et ce sont des esturgeons qui vivent que dans l'eau semi-salée. Voilà, donc on les a adaptés à l'eau douce.
Bien, mais si vous voulez du bon, avec une origine, avec un personnage bien connu, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu partout, parce que quand on le suit via sa page Facebook, on se demande d'ailleurs quand il est en Belgique, on retrouvera toutes les informations sur un site internet, je suppose.
Oui, qui est le www.cherazadcaviar.com.
Parfait, d'excellentes choses. Le Made in Belgium se termine aujourd'hui. Mon ami Guy Van Lorguet vous souhaite un excellent retour. Et dimanche prochain, alors là, accrochez-vous bien, dimanche prochain, on va aborder un regard un peu différent, mais il n'y aura pas que ça comme sujet, avec Maximum, un regard différent sur l'érotisme. Donc à mon avis, on aura peut-être un peu plus d'auditeurs encore dimanche prochain. Mon ami Guy, vous serez présent, je suppose.
Je serai présent.
Ah bien voilà, je vous souhaite tous et à toutes une excellente après-midi, un excellent dimanche. Ce sera un plaisir de vous retrouver, bien sûr. À bientôt, au revoir.
Merci Christian Quino et Guy Van Den Orget qui nous présentaient leur séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Petite pause musicale avant d'entamer la prochaine partie du mag de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous parlera du Barman, un tout nouveau concept qui débarquera à Liège dès demain.